Europe 1, il est 7h.
On a trouvé un premier traitement contre la Covid-19. En plus, ce traitement, il est tout de suite disponible dans le monde entier.
Ce n'est pas un médicament miracle, mais il suscite beaucoup d'espoir. La dexaméthasone réduit la mortalité d'un tiers chez les malades les plus gravement atteints. Tous en cours. En théorie, les élèves des écoles et des collèges seront de retour en classe lundi dans toute la France. Le protocole sanitaire est dévoilé aujourd'hui. Les chefs d'établissement ont du pain sur la planche. Les affrontements de Dijon électrisent la campagne municipale. Marine Le Pen était sur place hier.
Il ne s'agit pas seulement de s'interposer entre des communautés, mais de mettre fin sans faiblesse à cette sinistre séquence.
Dijon où la nuit a été calme. Au menu également le second tour à Lyon où les Verts partent favoris avec un candidat sous le feu des critiques de ses opposants.
Beaucoup de mensonges. J'ai entendu que j'allais enlever toutes les caméras de vidéosurveillance, désarmer la police, voilà, autant de choses que je n'ai jamais dites. Au contraire.
Et puis quand l'Europe sort ses griffes, attaque en vue contre la concurrence déloyale de la Chine notamment, c'est ce que nous expliquera Nicolas Barré.
Juste après ce journal, les femmes moins bien prises en charge en cas d'AVC. On va en parler dans votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h15, l'innovation utile pour les restaurateurs. Anissa Mbida nous présente les poteaux anti-stationnement qui peuvent se transformer en tables de restaurant. Écoutez bien, avant l'édito sport de Virginie Fulpin, 10 ans après Nice, plus de traces écrites du plus grand fiasco du foot français. La fédération a perdu le rapport. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h02 sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Belliard, Hélène Zélani.
L'OMS parle ce matin de percée scientifique. Pour la première fois, un médicament améliore la survie des patients gravement atteints par le Covid-19. C'est ce que montre un large essai britannique qui vient d'être dévoilé. Ce médicament de la famille des stéroïdes s'appelle le dexaméthasone. Les précisions de Mathieu Charrier.
Cette molécule a été testée dans 175 hôpitaux anglais en respectant les règles scientifiques puisque cette dexaméthasone a été administrée à plus de 2000 patients, alors qu'à côté, un groupe d'un peu plus de 4000 autres malades ne l'a pas reçu. Et la comparaison est sans appel. La dexaméthasone a réduit d'un tiers la mortalité chez les malades placés sous ventilation artificielle, les cas les plus graves donc, et d'un cinquième chez les patients qui étaient sous assistance respiratoire, mais sans être intubés. Le traitement n'a en revanche eu aucun effet sur les malades les moins graves, mais le professeur Jilali Annane, chef du service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, est très enthousiaste.
On a trouvé un premier traitement contre la Covid-19. En plus, ce traitement, et c'est ça qui est une bonne nouvelle, il est tout de suite disponible dans le monde entier. Et il est accessible parce que ce traitement est générique et qu'il ne coûte plus rien. C'est honnêtement un pas de géant fait dans la lutte contre la Covid-19.
Alors attention, d'autres médecins réanimateurs modèrent un petit peu cet enthousiasme et précisent que ce n'est pas le traitement miracle contre la Covid-19, car il y a des patients qui ont reçu ce médicament et qui sont quand même morts.
Mathieu Charrier, pendant ce temps-là, la Chine est dans l'angoisse d'une deuxième vague. Plus d'une centaine de malades répertoriés ces derniers jours à Pékin. Toutes les écoles et universités sont à nouveau fermées. Les habitants de la capitale doivent éviter les voyages. Plus d'un millier de vols sont annulés aujourd'hui.
Ils ont été aux premières loges pendant toute l'épidémie. Les personnels soignants sont descendus dans la rue dans toute la France hier.
Manifestations qui ont d'ailleurs dégénéré à Paris où environ 300 casseurs ont joué les troubles faits. 36 personnes ont été arrêtées.
Le temps presse pour les chefs d'établissement. Plus que 3 jours pour préparer la rentrée de tous les élèves dans les écoles et dans les collèges.
Le nouveau protocole sanitaire doit être publié dans la journée. On sait déjà que les règles de distanciation seront assouplies. Il faut donc réaménager les salles, revoir l'organisation. Pas simple pour les directeurs qu'a rencontré Victor Delande.
Depuis les annonces d'Emmanuel Macron, Karim Bacha a troqué son costume de directeur d'école à Lille-Saint-Denis pour celui de déménageur.
On doit, nous, descendre une cinquantaine de tables, une cinquantaine de chaises et 7 ou 8 mobiliers type grande table, meubles de bibliothèque. Tout ça pour 2 semaines de classe.
Quand il ne répond pas au téléphone pour rassurer les parents d'élèves totalement perdus, dans cette période, il doit déjà se pencher sur l'année prochaine et finaliser les inscriptions. Il ne compte plus ses heures et les jours fériés où il a dû travailler.
Si on ne sait pas s'adapter, là, c'est terminé.
Yves-Laurent Martin est directeur d'école à Issy-les-Moulineaux.
Un certain nombre d'enseignants, et dont moi, sommes passés dans les classes pour voir comment on pourrait éventuellement augmenter la capacité d'accueil en redéplaçant les tables, en les redisposant dans la classe pour qu'ils soient en conformité avec le protocole que nous attendons.
Et rebelote dans quelques heures, quand le nouveau protocole sanitaire sera dévoilé, ils devront une nouvelle fois s'adapter, reprendre des mesures dans toutes les classes et recontacter tous les parents d'élèves.
Victor Delande.
Europe 1, il est 7h05.
En pleine campagne des municipales, les affrontements de Dijon sont désormais un enjeu politique. C'est ainsi que Marine Le Pen a fait le déplacement hier en Côte d'Or.
La présidente du Rassemblement National a pris la parole pour dénoncer les dangers du communautarisme qui sont, selon elle, à l'origine de cette flambée de violence.
J'appelle les Français à regarder la vérité en face. Il ne s'agit pas seulement, comme veut le faire le gouvernement, de s'interposer entre des communautés, mais de mettre fin sans faiblesse à cette sinistre séquence. Le communautarisme ne s'exprime plus dans d'irritantes revendications vestimentaires, alimentaires ou scolaires du quotidien. Il n'adopte plus uniquement la posture de bruyante et inconvenante imprécation sur la prétendue illégitimité de la culture française en France. Il ne se limite plus à des appels grotesques à repentance de la part des Français. Le communautarisme ne nous somme plus seulement de déboulonner les statues des grands hommes de notre histoire. Il n'hésite plus à s'affirmer, on le voit à Dijon et à Nice, par des défilés de groupes armés agissant au vu et au su de tout le monde.
Marine Le Pen avec Mathieu Bock.
Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur, était sur place. Lui aussi, il a promis une réponse extrêmement ferme après les nuits d'affrontements qui ont opposé des Tchétchènes qui voulaient venger l'un des leurs à des jeunes de la cité des Grésilles.
Un quartier où la nuit a d'ailleurs été calme. 150 policiers et gendarmes supplémentaires sont mobilisés. Ils resteront aussi longtemps que nécessaire. Que sait-on, Justin Morin, sur cette communauté tchétchène ?
En France, il serait entre 15 et 20 000, quasiment tous avec le statut de réfugiés. La grande majorité est arrivée dans les années 2000, après avoir fui le conflit entre les indépendantistes tchétchènes et l'État russe. Cela fait d'eux une communauté soudée, avec un code d'honneur très poussé, qui peut les amener à se mobiliser rapidement pour un des leurs. Quand on les écoute, ils en sont fiers, mais c'est aussi ce qui ternit leur réputation auprès des forces de l'ordre. Pour la police, ils sont plus associés à des faits de rackets, de vol ou de vendetta comme celle de Dijon. Lors de cette expédition punitive, beaucoup de réfugiés, l'un des participants me l'a confirmé, mais il y avait aussi de jeunes Français d'origine tchétchène. Alors aucun n'a été interpellé, les forces de l'ordre sont en train de les identifier. Mais même si c'est le cas, leur expulsion est quasi impossible. La procédure est très rare, elle ne peut se faire qu'en cas de menace avérée pour la sûreté de l'État. Un policier spécialisé dans la lutte antiterroriste confirme. Dans les faits, c'est extrêmement compliqué. Il donne l'exemple d'un Tchétchène qui a aidé un membre de sa famille à partir en Syrie, doté d'un casier judiciaire long comme le bras. Eh bien, le ministère de l'Intérieur rechigne à le renvoyer en Tchétchénie, dirigé aujourd'hui par un dictateur pro-Poutine, où il risque la torture et la mort.
8h15, notez bien le rendez-vous, François Rebsamen, le maire de Dijon, sera l'invité de Sonia Mabrouk. Avant cela, à 7h40, l'ancien patron du RAID, aujourd'hui député La République En Marche, Jean-Michel Fauvergue. La campagne des municipales, nous irons à Lyon dans quelques toutes petites minutes, où le candidat En Marche, allié à la droite, a monté un front anti-vert. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h10, la suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Et à une dizaine de jours du second tour des municipales, direction Lyon, où le candidat des Verts, allié à la gauche, est arrivé en tête au premier tour.
Il est donc donné favori le 28 juin pour remplacer Gérard Collomb. Pour le contrer, les listes de Yann Cucherat se sont unies aux Républicains. C'est donc un front anti-vert qui va tenter de renverser la vapeur. À Lyon, Jean-Luc Bougeon.
Tout sauf les verts à la mairie de Lyon, ce pourrait être le slogan de campagne de la liste de Yann Cucherat. L'ancien gymnaste, toujours cornaqué par Gérard Collomb, a fait alliance avec la droite, conséquence il n'a plus l'investiture de La République En Marche. Mais selon lui, cette alliance est une obligation pour éviter le cataclysme des verts à la tête de la ville.
Je ne veux pas un laboratoire expérimental du repli, de la régression. On voit bien que depuis quelques semaines, le monde de l'entreprise, ils sont inquiets.
Face à cette accusation d'être un décroissant, le candidat écolo Grégory Doucet essaye de rester zen. Avec ses 28% du premier tour et son alliance avec l'extrême gauche, il a de la marge, mais il n'apprécie pas beaucoup ses attaques.
Beaucoup de mensonges quand on parle du péril vert, des Khmers verts. J'ai entendu dans la bouche de certains que je voulais interdire la fête des Lumières à Lyon. Vous imaginez bien que c'est le dernier de mes projets. On m'a aussi fait dire que j'allais enlever toutes les caméras de vidéosurveillance, désarmer la police. Voilà, autant de choses que je n'ai jamais dites, au contraire.
L'arbitre le 28 juin sera donc sans doute l'abstention, mais également, pourquoi pas, le troisième comme Georges Kepenick, qui en adepte du compromis et qui avait assuré l'intérim en tant que maire pendant 16 mois lorsque Gérard Collomb avait été nommé au ministère de l'Intérieur. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Bruxelles sort ses griffes. Enquête sur Apple, soupçonné d'abus de position dominante, changement de ton vis-à-vis de la Chine. C'est votre éclairage écho ce matin, Nicolas Barré. L'Europe ne veut pas se laisser faire.
Oui, et d'ailleurs, tous ceux qui prospèrent en accusant Bruxelles de mollesse vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine vont devoir réviser leur jugement. Ce matin, deux poids lourds de la Commission, Margrethe Vestager et Thierry Breton, ouvrent le feu contre les pays qui nous livrent une concurrence déloyale. La Chine est évidemment dans le viseur, notamment lorsque Pékin subventionne ses entreprises pour les aider à gagner des marchés à l'étranger. Il faut sortir de la naïveté, dit Thierry Breton. Et concrètement, eh bien, si l'on découvre qu'une entreprise étrangère a bénéficié d'aides d'État, Bruxelles pourrait la forcer à vendre des actifs qu'elle a achetés en Europe. Et Bruxelles pourrait aussi bloquer d'autres acquisitions ou l'empêcher d'accéder à des marchés publics.
Nicolas Barré, c'est toute la stratégie commerciale qui est repensée là.
Exactement. Le vent tourne. D'ailleurs, avec le départ des Britanniques, les libre-échangistes ont du plomb dans l'aile. L'Europe veut rester ouverte, bien sûr, mais ouverte à ceux qui respectent nos règles. Nuance. Cas concret, d'ailleurs, après Google, condamné à 8 milliards d'euros d'amende pour abus de position dominante, Bruxelles s'attaque aujourd'hui même à Apple sur le même terrain. Apple est accusé de pratiques discriminatoires à l'égard de Spotify, la plateforme de streaming d'origine suédoise. L'Europe ouvre aussi une enquête sur Apple Pay, soupçonné également d'abuser de position dominante. Le message est clair, l'Europe est le premier marché du monde. Pour y accéder, il faut respecter nos règles. L'Europe naïve, c'est fini. On a envie de dire enfin.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Et puis, il était une voix.
Qu'est-ce qui est sorti comme numéro hier soir? Vous jouez pour l'auto? Non? Ma femme remplit 2 bulletins par semaine. Ça fait 10 ans qu'elle joue les mêmes chiffres. Je vais vous lui dire, tu pourrais changer de temps en temps. Pourquoi tu joues pas d'autres numéros? Elle me dit, ah, tu sais, ceux-là vont toujours porter chance. Je les ai là, d'ailleurs.
Alors, son nom ne vous dira sans doute rien. Patrick Poivet est mort à 72 ans, mais sa voix, évidemment, vous l'avez reconnue. C'est lui qui doublait Bruce Willis dans les années 80, mais aussi de nombreux autres acteurs américains. Tom Cruise, Kevin Costner, Bill Murray ou Charlie Sheen.
Merci beaucoup, Hélène Zellani. C'était le journal de 7h. Il est 7h13 sur Europe 1.
Et votre rendez-vous santé sur Europe 1, nous sommes avec le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une étude qui montre qu'en cas d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, les femmes ont moins de chances que les hommes de recevoir le traitement qui pourrait les sauver.
Eh oui, alors lorsque vous faites un accident vasculaire cérébral, le traitement consiste à dissoudre le caillot qui obstrue les vaisseaux sanguins à l'origine de l'AVC. Et les femmes ont 13% de chances en moins que les hommes d'avoir ce traitement en urgence. Alors, ce chiffre est en amélioration. Entre 2000 et 2008, il était de 30%. Alors, la moindre petite différence, malgré tout, peut avoir une grande conséquence sur les femmes qui pourraient être non traitées. Alors, l'explication, il y en a plusieurs. La première, ce serait que les femmes qui font un accident vasculaire cérébral le font à un âge beaucoup plus avancé que les hommes, avec des pathologies plus compliquées, raison pour laquelle elles ne pourraient pas avoir ce traitement. Et puis la deuxième cause, et celle qui est un peu plus inquiétante, c'est qu'elles feraient des symptômes dits atypiques, c'est-à-dire qu'on ne se rendrait pas compte qu'elles font un AVC, elles sont confuses, elles vont avoir une faiblesse, et du coup ça va conduire à un retard diagnostique, vu que finalement on ne connaît pas très bien la maladie chez la femme.
Justement, l'ancien maire de Barsac, Philippe Ménard, ayant lui-même fait un AVC, il entame un tour de la Gironde à tricycle pour sensibiliser les gens à cette pathologie.
Eh oui, alors pendant le Covid, on a eu 66 millions de virologues ou 66 millions d'épidémiologistes, mais ce serait mieux d'avoir 66 millions de neurologues. En France, il y a un AVC toutes les 4 minutes. C'est la première cause de handicap acquis de l'adulte et c'est la première cause de mortalité chez la femme. Et le diagnostic est absolument urgent. Chaque minute passée après un accident vasculaire cérébral, eh bien vous perdez 2 millions de neurones par minute. La caractéristique d'un AVC, c'est la survenue brutale des symptômes, d'où le terme d'attaque cérébrale. Et s'il fallait retenir un seul signe, c'est tout signe neurologique qui est d'apparition brutale, la faiblesse d'un membre, une difficulté à parler, un trouble de la vision, une confusion, un trouble de l'équilibre, doit absolument vous faire consulter et appeler le 15 en toute urgence.
Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. On vous retrouve tous les jours après le journal de 7h et à partir de 15h, l'émission Santé d'Europe 1. C'est sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. Il est 7h16.
Et c'est maintenant l'innovation du jour. On retrouve sur Europe 1 Anissé Mbida.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors je me suis amusé en vous lisant cette nuit, ce matin, cette belle idée qui pourrait intéresser les restaurants et les bars. Il s'agit d'un kit qui transforme les piquets anti-stationnement qu'il y a sur les trottoirs en mini-tables. On peut manger debout.
Exactement, c'est très malin, il fallait y penser. On glisse une sorte de grand chapeau en bois sur le potelet. Hop, 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 on serre 3 vis et on se retrouve avec un guéridon de bistrot parfaitement stable.
Je vous coupe, on est à la pointe des nouvelles technologies là.
Mais oui, mais on est à la pointe de l'innovation. L'innovation n'est pas forcément une nouvelle technologie. Parce que vous savez que pour compenser la perte de chiffre d'affaires, les restaurateurs ont été autorisés à s'installer sur le trottoir et même sur la chaussée. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours du mobilier adapté. Et bien, avec ce système, ils vont pouvoir détourner les piquets de l'espace public. C'est extrêmement rapide à monter et à démonter. Et comme ils sont tous séparés d'un peu plus d'un mètre, et bien on respecte naturellement la distanciation. C'est Félix Miquel, un jeune Parisien de 20 ans en deuxième année d'architecture, qui a lancé le concept. Et j'adore le nom, il a appelé ça Extra Terrasse.
J'adore l'idée, moi. Et qui les fabrique, ces kits? Il a une société,
Miquel? Il fabrique tout lui-même, à la main, sur son balcon, avec du bois de récupération. Il y a déjà plusieurs restaurateurs de son quartier qui les utilisent. Et d'ailleurs, son concept n'est pas limité aux tables. Il propose aussi des cendriers à installer devant les bars, dans les quartiers animés. Ça évitera d'avoir des mégots qui traînent partout. Il fabrique aussi des pots de fleurs pour les fleuristes, pour les boutiques déco. C'est plus joli que poser tout ça par terre. Il y a même des distributeurs de gel hydroalcoolique. Comme ça, on le met sur le potelet devant un magasin, devant une école. C'est extrêmement simple. Donc, c'est une nouvelle façon de se réapproprier l'espace urbain et de rendre un petit peu plus utile ces vilains potelets. On ne sait pas trop en faire.
Mais c'est vrai.
Vous savez qu'il y en a plus de 300 000 à Paris, 4 fois plus que de pigeons de
ces potelets. Imaginez, 300 000 tables potentielles justement pour les restaurateurs. Merci Anis Mbida, j'adore cette innovation. Comment s'appelle-t-il? Félix Miquel, oui. Et l'extraterrestre. Bravo à lui, merci Anis, il est 7h17.
Europe 1. Il sera question d'un rapport dans l'édito sport, un rapport perdu, celui sur le fiasco de Naïsna en Afrique du Sud. Rappelez-vous de la grève des Bleus, Virginie Fulpin dans un instant.
Le monde bouge, Axel de Tarlet juste avant, à tout de suite.
À 7h20 sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et Axel de Tarlet qui nous a rejoint, le monde bouge. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Les États-Unis et la Chine chutent dans le classement mondial des pays les plus compétitifs, en cause la guerre commerciale entre les deux pays.
Oui, on peut parler de suicide économique. Comme chaque année, l'Institut IMD de Lausanne publie le classement des économies les plus compétitives du monde. Alors l'étude s'appuie sur des données objectives et sur des enquêtes réalisées auprès des chefs d'entreprise. Les États-Unis ont dominé ce classement pendant très longtemps. Eh bien c'est fini, c'est la chute. Les États-Unis tombent à la 10e place mondiale. Idem en Chine, qui recule à la 20e place mondiale. Les auteurs de l'enquête le disent très clairement, la guerre commerciale a inversé leur trajectoire de croissance. Et pour cause, dans ces deux pays, on ne parle plus que de guerre économique et de représailles commerciales.
Alors, quelle est la situation de la France, Axel? La France dont on a dit qu'elle était redevenue très attractive.
Eh bien, écoutez, c'est une déception. Nous stagnons. Alors que les Anglais, eux, ils gagnent 4 places. Ce qui étonne d'ailleurs les auteurs de l'enquête, qui expliquent que finalement, la Grande-Bretagne post-Brexit est perçue comme un pays accueillant pour les entreprises. Et d'ailleurs, vous savez qu'Unilever, par exemple, vous savez, c'est ce géant des produits de grande consommation, a décidé de mettre fin à sa double nationalité anglo-néerlandaise. Et Unilever a choisi de s'installer à Londres plutôt qu'à Amsterdam. Et ce, explique Unilever, pour des raisons financières. Bah oui, la City reste la City. Preuve que les Anglais n'ont pas dit leur dernier mot en termes d'attractivité.
Quels sont donc les pays en tête du classement, les pays les plus compétitifs au monde?
Eh bien, c'est intéressant, ce sont tous de petits pays. Singapour, Danemark, Suisse, Pays-Bas. Pourquoi? Parce que dans les petits pays, on est plus pragmatique, plus proche du terrain. Il y a un consensus qui permet d'aller vite et d'être efficace. C'est curieux, on a l'impression d'entendre parler de l'affaire des masques. Et puis pour finir, les auteurs notent au passage que le Danemark, deuxième économie la plus compétitive au monde, est très engagé pour le climat. Preuve, oui. On peut être très compétitif tout en prenant le virage écologique.
Le Danemark, deuxième pays au monde en termes de compétitivité et bien classé aussi au niveau écologique. Merci beaucoup Axel de Tarlet, le monde bouge et vous le racontez tous les matins sur Europe 1.
Il est 7h22, Virginie Fulpin sur Europe 1, l'édito sport.
10 ans après, bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
J'en reviens pas, on va parler de Naïsna ce matin. Et là, c'est la minute coup de vieux, ça fait 10 ans déjà Naïsna.
Ouais.
10 ans après, on n'en a pas fini avec la plus grosse honte du football français, la grève des Bleus à Naïsna, je rappelle tout, en Afrique du Sud. Il y a eu une enquête, il y a eu un rapport d'enquête. Mais voilà que la Fédération française de foot a perdu ce rapport. Pour vous, c'est surtout que personne n'a envie de déterrer les vieux dossiers.
Ah, les vieux dos, hein, ceux qui ressortent inévitablement au dessert lors des repas de famille. Pourtant, on avait promis qu'on n'en reparlerait plus jamais. Bon, bah, visiblement, on est plus strict sur les promesses à la Fédération française de football. Enfin, il y a deux possibilités. Soit on joue au pied nickelé, on a vraiment égaré ce dossier, et là j'espère franchement qu'on range mieux nos Coupes du Monde. Soit on l'a gentiment mis sous le tapis pour éviter les révélations gênantes. Les membres de la mission d'information chargée d'enquêter en 2010 penchent plutôt pour la deuxième solution, et je suis tentée de les croire. On peut quand même pas perdre un dossier de 15 pages sur la plus grande honte du foot français entre la photocopieuse et le placard aux oubliettes.
Il y a bien quelqu'un qui l'a en pièce jointe d'un mail quelque part.
Oui, c'est pas possible, ça paraît un peu gros quand même. Alors qu'est-ce que la FFF veut cacher? Un des auteurs de ce rapport perdu se souvient que dans ses conclusions, il dénonçait l'attentisme de la Fédé et son incapacité totale à apaiser les tensions entre Raymond Domenech et ses joueurs pendant cette Coupe du Monde.
honnêtement, on n'en tombe pas de notre chaise non plus. Hein. On s'en était un peu rendu compte quand même.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport de si gênant?
Je sais pas, il est perdu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ce qui est gênant, d'abord, c'est tout ce qui s'est passé et qui a donné une image calamiteuse du foot français dans le monde entier. Les insultes ou pas, hein, on ne sait pas, de Nicolas Anelka envers Raymond Domenech, l'attaquant exclu de l'équipe de France, et ensuite les autres joueurs qui, par solidarité, font grève, ne descendent pas de leur bus pour s'entraîner et demandent aux sélectionneurs de lire un communiqué lunaire devant la presse. La trame, on la connaît même trop bien. Mais dans ce rapport, il y avait la transcription des auditions de 18 joueurs de l'équipe, hein, puisqu'il y en a 5 qui n'ont pas voulu répondre. Parmi eux, Nicolas Anelka. Lui, il a promis des révélations dans un documentaire sur Netflix qui va sortir sur lui ce mois-ci.
Oui, il ne faut pas le perdre.
Non, sûrement pas. Non, mais enfin, est-ce qu'il y aura vraiment des révélations? Ça fait 10 ans qu'on nous en promet, ça fait pchit à chaque fois. Là, ça recommence. Mais moi, j'aurais bien eu envie de découvrir la version des joueurs. Et ce rapport, c'était leurs auditions, donc on aurait pu en savoir un petit peu plus. La Fédé préfère peut-être qu'il soit jugé seul responsable plutôt que d'assumer ses errances. Hein, c'est plus simple. C'était à la mode à l'époque. Hein. Cette Fédé avait déjà laissé Thierry Henry assumer tout seul sa main contre l'Irlande, sans jamais lui apporter un quelconque soutien. Donc il n'y a pas que le dossier qui a été perdu dans cette histoire, il y a aussi un petit peu d'honneur.
Et j'aurais bien entendu précisément, moi, Thierry Henry, sur cet épisode Naïsna.
Oui, moi aussi, sur les autres épisodes aussi, d'ailleurs.
Virginie Fulpin, l'édito sport, tous les matins, d'accord ou pas, vous écoutez, vous partagez sur le hashtag Europe 1, il est 7h25.
Europe 1. À 7h30, le journal et la météo avec Laurent Cabrol, à tout de suite.
7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Chers amis, si ce temps vous porte souci, allez, patience, plus que 2 jours. Aujourd'hui et demain, et ensuite ça ira mieux.
J'ai cru que c'était un alexandrin. Si ce temps porte souci, allez, patience.
Hein. Bon, je vous en ferai un. Alors, en ce qui concerne la météo actuelle, eh bien, nous avons beaucoup de pluie dans les régions de l'Est, entre l'Alsace et les Alpes. Hein. Il pleut pas mal. Ce ne sont pas des pluies torrentielles, hein, mais enfin, il pleut. Et puis, il pleut par ailleurs à l'opposé, sur les côtes atlantiques, entre, disons, Nantes et Bordeaux. Et ce sont deux secteurs où vraiment nous aurons le plus de pluie aujourd'hui, nous serons les plus arrosés. Alors, d'une manière générale, les contrées les plus favorisées sont celles de la Méditerranée, d'accord ? Les éclaircies apparaîtront dans le sud-ouest, le Limousin, la Normandie, la Vallée de la Loire, mais c'est encore une journée bien chargée, hein, avec des nuages, de l'orage, des averses, des giboulées, et les rayons de soleil seront un peu chiches. Alors sur Paris, il ne devrait pas pleuvoir, en tout cas pas avant ce soir, mais le temps restera très nuageux, et les températures se situeront entre 18 et 27 degrés, 18 degrés à Nancy, 19 à Bourges et Colmar, 20 degrés à Caen, 21 à Nevers, Dijon, Abbeville, à Paris, Lille et Toulouse, 22, 24 à Nice, 26 à Marseille et 27 à Montauban et à Montélimar. Vous voyez que d'une manière générale, donc, c'est une journée qui ressemblera un petit peu à celle d'hier. Demain, il y aura beaucoup moins d'averses et d'orages. Et ensuite...
Le vent ? Non, c'est le calme.
Non, c'est le soupir de soulagement.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. Le blind test de la météo, c'est nouveau. Hein. C'est sur Europe 1 à 7h30 le matin. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal à 7h30.
Nous craignons qu'il y ait une résurgence de la maladie. Très contagieux, beaucoup plus que le corona.
Le Covid-19 ne doit pas faire oublier la rougeole, le tétanos, chute drastique des vaccinations pendant le confinement. Elles doivent reprendre d'urgence, alerte la Haute Autorité de Santé. Plus de 2000 morts du coronavirus en un jour en Inde, en Chine. Près de la moitié de la ville de Pékin est reconfinée. Nous serons sur place. Et puis cette question, la rentrée de septembre prochain sera-t-elle celle du télétravail? Certains employeurs s'organisent déjà. Nous avons enquêté.
Juste après ce journal, l'ancien patron du RAID. On va parler de Dijon avec Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche. 7h50, le rendez-vous culture de la matinale. Jean-Philippe Ballas nous présente le nouvel album d'un grand musicien africain, Ray Lema. Avant 8h, l'opinion de Nicolas Bétou, Emmanuel Macron et les questions régaliennes. Il est 7h31, très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tétanos, coqueluche et surtout rougeole, possible résurgence, s'inquiète la Haute Autorité de Santé. Effondrement des vaccinations pendant le confinement, moins 35 à moins 71%.
La Haute Autorité qui appelle à reprendre d'urgence les vaccinations, particulièrement pour les nourrissons. Certaines familles parties loin du pédiatre pendant le confinement tentent désormais de rattraper le retard.
Reportage Jean-Jacques Herry dans un cabinet médical à Puteaux dans les Hauts-de-Seine.
Claire-Marie, à mon avis, on va même pas l'entendre pendant la vaccination. Et voilà, c'est fini.
Un vaccin, ça pique surtout. Voilà ce que dirait Claire-Marie, 19 mois, si elle savait parler.
La petite fille était confinée en famille en province, loin de sa pédiatre. Alors, dès le retour en région parisienne, sa maman Laetitia a immédiatement pris rendez-vous pour la deuxième injection du vaccin contre la rougeole.
Je me suis dit que c'était important de le faire. Par rapport à la prescription initiale, effectivement, on est venu un petit peu après.
Pour Claire-Marie, l'injection a juste été un peu décalée. Mais ce qui alarme la Haute Autorité de Santé, c'est la baisse globale des ventes de vaccins. C'est particulièrement inquiétant concernant celui contre la rougeole, explique le docteur Kanselem, pédiatre à Puteaux, qui vient de prendre en charge Claire-Marie.
La vaccination rougeole, les ventes de vaccins ont diminué de 50%. Nous craignons qu'il y ait une résurgence de la maladie.
C'est très contagieux, si c'est
très contagieux, beaucoup plus que le corona. Un enfant atteint peut contaminer entre 15 et 19 personnes. Et c'est une maladie qui peut être grave.
La médecin fait ses calculs, elle appelle tous les parents à venir consulter. Pour les enfants de 0 à 2 ans, l'idéal serait d'arriver à rattraper tout le retard dans un délai d'un mois.
L'Organisation mondiale de la santé salue ce matin une percée scientifique. La dexamétasone, premier traitement avéré qui réduit d'un tiers la mortalité chez les malades gravement atteints par le coronavirus. Conclusion d'un essai britannique. Le gouvernement outre-Manche annonce d'ailleurs son utilisation immédiatement.
Bilan sanitaire en France, 111 nouveaux décès en 24 heures. La baisse des cas graves en réanimation continue.
C'est l'Inde qui nous inquiète ce matin. Plus de 2000 morts en un jour, après toutefois un ajustement du bilan. En Chine, plus d'un millier de vols annulés dans les deux aéroports de Pékin. De nouveaux cas continuent d'apparaître dans la capitale et il semble que la ville se reconfine. Sébastien Lebelzik.
Mauvaise nouvelle pour les élèves de Pékin ce matin. Les écoles vont rester fermées, toutes les écoles. C'est ce qu'a annoncé en pleine nuit, à la surprise générale, la municipalité de Pékin suite à la découverte de nouveaux malades dans la capitale. Les déplacements sont également très contrôlés. Écoutez Chen Bei, porte-parole de la mairie de Pékin.
Les contrôles des voyageurs vont être renforcés aux entrées et aux sorties de Pékin. Ceux qui entrent à Pékin de l'étranger seront placés en quarantaine et devront subir un test de dépistage. Ceux qui ont traversé les zones à risque n'ont pas le droit de quitter Pékin.
Des mesures exceptionnelles et avant tout préventives, puisqu'il s'agit surtout de protéger la capitale politique chinoise pour qu'elle ne devienne pas un nouveau Wuhan. Près de la moitié de la ville est donc placée en confinement à partir d'aujourd'hui et plus de 200 000 personnes au total seront dépistées dans les prochains jours. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
À Dijon, nuit calme, nous disait dans le journal de 6h Didier Martin, député de Côte d'Or, qui était ce matin dans le quartier des Grésilles.
Les violences urbaines prennent un tournant politique maintenant. L'opposition accuse l'État de laxisme sur la sécurité. Le secrétaire d'État Laurent Nunez, sur place hier, a promis une réponse extrêmement ferme.
Marine Le Pen était aussi sur place hier, la présidente du Rassemblement National, qui prévoit par ailleurs de se rendre demain sur l'île de Sein dans le Finistère, pour commémorer le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, visite qui fâche les 250 habitants. Vous l'entendrez dans le journal de 8h.
Emmanuel Macron sera, lui, à Londres. Une commémoration du président qui agace la droite.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Certains membres des Républicains parlent de détournement d'héritage. L'occasion, justement, pour eux de s'interroger sur l'identité des Républicains aujourd'hui.
Et oui, est-ce que cela a vraiment du sens en 2020 de se réclamer du général? Est-ce que les valeurs gaullistes sont encore d'actualité au 21e siècle? En fait, plus que jamais, répondent tous les responsables LR qui expliquent qu'il n'y a que le gaullisme comme politique si l'on veut réconcilier l'ouvrier et le patron et restaurer l'autorité de l'État tout en restant proche du peuple. C'est justement parce qu'il est moderne, vous disent les Républicains, que tout le monde veut se l'approprier. De Marine Le Pen à Emmanuel Macron, le président qui l'évoque et l'invoque tous les quatre matins. De Gaulle, superstar 50 ans après sa mort que l'on célèbre cette année. Curieusement, parmi tous ses admirateurs de tous bords, peu font référence à l'acte politique de rupture qu'avait osé faire le général de Gaulle quand il prit le pouvoir en 1958. Jeter le vieux monde de la 4e République et fonder la 5e pour adapter la France à l'après-guerre. Alors, parmi tous ceux qui lui vont un culte, on pourrait leur dire chiche. Qui osera faire la même chose?
Mickaël Darmon, le fait politique tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
Les véhicules hybrides cartonnent en concession grâce notamment aux primes et bonus de l'État. Sur les 10 premiers jours de juin, vente en hausse de 89% par rapport à la même période il y a un an. Chiffre qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Détail dès le début du journal de 8h.
Europe 1, il est 7h36.
La crise inédite que nous traversons va-t-elle bouleverser notre façon de travailler? Certains d'entre nous ont pris goût au télétravail, pratique qui reste souhaitable mais qui ne doit pas devenir la norme, prévient le ministre Bruno Le Maire.
Il y a ses patrons qui plaident pour le retour des salariés au bureau. D'autres, au contraire, s'organisent pour généraliser le télétravail et même le poursuivre en septembre prochain. Romain Noquet, c'est ce que vous avez constaté.
Oui, une certitude, à la rentrée, rien ne sera plus comme avant. Des banques aux transporteurs, même dans la grande distribution, PME et sociétés du CAC 40, toutes sont en ce moment en plein chantier, pérenniser le télétravail pour tous. Le plus dur maintenant, admet un chef d'entreprise, c'est de légiférer alors que pendant le confinement, on s'est contenté de bricoler. Première étape donc, consulter les salariés comme chez cet assureur parisien.
un sur deux souhaite continuer le télétravail à temps plein et un sur deux souhaite le continuer mais de façon plus épisodique. On pourrait fonctionner avec 2 jours de présentiel et 3 jours au choix des collaborateurs.
2, 3 ou même 4 sessions de télétravail par semaine selon les entreprises, mais partout, des jours de présence resteront obligatoires. Des règles nouvelles qui seront négociées avec les syndicats pendant l'été, respect des horaires, aménagement de l'espace de travail, maintien du lien social. Déjà, les patrons vont organiser des formations pour leurs salariés convertis en télétravailleurs. Mais attention, préviennent des DRH, adopter cette nouvelle organisation, c'est voir émerger d'autres contraintes, l'isolement ou la perte de créativité des équipes.
Enquête pour Europe 1, signé Roman Oquet.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1, il est 7h37.
Europe 1. Vous écoutez la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Allez, notez-le bien, je vous l'ai dit, 8h15 ce matin, le maire de Dijon est sur Europe 1. Invité de Sonia Mabrouk, François Rebsamen, 8h15 tout à l'heure. Dans un instant, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, le monsieur police de la majorité à l'Assemblée. Jean-Michel Fauvergue, devenu député de La République En Marche, dans ce studio dans quelques toutes petites secondes. Très bon réveil.
À 7h40, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche de Seine-et-Marne, ancien patron du RAID.
Bonjour Jean-Michel Fauvergue.
Bonjour Mathieu Béliard.
Et merci d'accepter de répondre à nos questions ce matin. Vous connaissez bien évidemment ces questions policières. En votre qualité d'ancien patron du RAID d'abord, après 3 nuits de violence à Dijon, on a envoyé le RAID dès lundi. Ça vous a surpris ?
Non, parce qu'on l'a envoyé escalité, c'est-à-dire on n'a pas envoyé le RAID pour faire du maintien de l'ordre, on a envoyé le RAID parce qu'il y avait des armes qui circulaient et c'est pour intervenir sur des individus qui étaient armés et voilà pourquoi le RAID a été envoyé.
Alors on est tous surpris, choqués même pour certains par ces images, cette centaine de Tchétchènes qui vient se faire justice. Par cette réponse aussi, vous parliez des armes, raison pour laquelle on a envoyé le RAID. Ces vidéos qu'on a vues avec des armes à feu, des Kalachnikovs, des pistolets, il y a autant d'armes en circulation à Dijon ?
Alors à Dijon, je ne sais pas, sur l'ensemble du territoire national, il y a des, c'est sûr et certain, depuis le conflit de Yougoslavie, donc qui ne date pas d'hier, il y a eu un certain nombre d'armes qui sont arrivées sur l'ensemble de l'Europe, et il y a des armes en France, bien évidemment, bien qu'il y ait beaucoup de prises d'armes, etc. Il y a aussi des armes factices qui sont montrées, etc. Donc l'enquête en cours, qui est chargée de tout ça, sous l'autorité de magistrats, donnera sa réponse.
Évidemment, pour savoir qui sont ces hommes, si on peut les identifier, ces armes. Alors, on a entendu beaucoup de choses dans les journaux d'Europe 1. Ce matin encore, certains de ces Tchétchènes, par exemple, qui nous racontent qu'ils sont allés expliquer à une brigade de police le premier soir qu'ils n'étaient pas là pour s'en prendre aux forces de l'ordre, mais pour venger une agression. Autre témoignage entendu sur notre antenne, Jamal, habitant du quartier des Grésilles. Les policiers, on ne les voit jamais. J'aurais simplement calmement expliqué ce qu'a dit le préfet de région. Il fallait encadrer, encercler. Il y a ce syndicaliste policier qui nous dit aussi qu'il fallait éviter l'affrontement. Il y aurait eu des tirs, des morts. On fait quoi dans ces cas-là ? Il faut attendre patiemment, subir ?
Mathieu Béliard, les choses se déroulent toujours en 3 temps. 3 temps. Le avant, le pendant, le après. Le avant, c'est est-ce qu'on peut prévoir ce type d'événement ? La réponse dans ce domaine-là, c'est que quelques-uns sont prévus parce que ça sort sur des réseaux sociaux, etc. Là, c'était pas le cas, donc on peut pas le prévoir et l'événement éclate et tout le monde est surpris par l'événement. Le deuxième temps, c'est la riposte pendant l'événement. Il faut aller sur les policiers sont là pour éviter les confrontations. Les premiers policiers sont là pour éviter les confrontations. Les renforts doivent arriver assez rapidement et ils sont là pour éviter les confrontations. Et si possible, faire des interpellations. Il y en a eu 4, il me semble. Certains jugent que c'est trop peu, bien évidemment. Mais là, on est dans le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est le temps de l'enquête. C'est le temps qui s'ouvre maintenant. Et normalement, sur ce temps de l'enquête-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va remonter l'affaire. Il va y avoir des interpellations et sous l'autorité d'un magistrat. Et j'ajouterai qu'il doit y avoir un quatrième temps. Et le quatrième temps, ça sera ensuite ce qui va se passer après l'enquête, c'est-à-dire les jugements, etc. Et on va regarder la réponse pénale, parce que bien souvent, on a un problème de réponse pénale adaptée.
Le problème se passe au niveau des magistrats ?
Il ne se passe pas au niveau des magistrats, il se passe au niveau de l'ensemble de ce continuum de sécurité. On a un continuum de sécurité qui fait intervenir 2 ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, quand la sécurité des Français repose à la fois sur les enquêtes et ensuite sur les jugements qui sont faits. Sur les enquêtes, grosso modo,
Juste une question d'effectifs policiers, c'est ça que je veux dire.
Non, ça n'est pas juste une question d'effectifs policiers. Vous savez pourquoi, Mathieu Belliard, ça n'est pas juste une question d'effectifs policiers ? Parce que dans notre pays, quand vous ajoutez les effectifs de la police et les effectifs de la gendarmerie avec les réserves de gendarmerie, vous êtes un des pays où il y a le plus de policiers par nombre d'habitants. Donc c'est aussi un problème on parlait de la réponse pénale adaptée, ça c'est un problème de justice, c'est aussi un problème de réforme de la police et gendarmerie, des forces de sécurité, pour pouvoir mettre plus de monde sur le terrain. On peut le faire si on s'attaque à ces réformes-là. On a dans la police et dans la gendarmerie nationale des unités qui font le travail en double, en triple, qui se font concurrence, etc. Il faut mettre de l'ordre, il faut réformer, et c'est peut-être le livre blanc que le ministre nous a promis qui va fixer ça. Livre blanc auquel des parlementaires, et en particulier le groupe sécurité de la majorité, dont que je co-dirige, a apporté un certain nombre de solutions. J'espère qu'elles seront retenues.
Jean-Michel Fauvergue, précisément avec vous en interview, on ne sait jamais si on parle aux policiers ou aux politique. Laurent Nunez était sur place hier, Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Sur place, mais pas au quartier des Grésilles. Ça lui a été reproché. Est-ce qu'à sa place, vous y seriez allé ?
Écoutez, ne me demandez pas de me mettre à la place de Laurent Nunez, qui est un secrétaire d'État qui est, à mon avis, efficace. Peut-être pas assez écouté. C'est le
écouté par qui ? Ses hommes ?
Par sa hiérarchie.
Son ministre, par Christophe Castaner.
C'est le technicien, il était là pour apporter. Le duo politique et technicien était un duo important. Il ne fallait pas mettre le technicien sous le. Il fallait le mettre en avant et qu'il apporte des réponses de terrain.
Justement, il y a eu ces débats, ces polémiques. J'aimerais qu'on ait juste un mot avec vous, Jean-Michel Fauvergue, sur la réponse. Alors, la question du racisme a été évoquée, sur les méthodes d'interpellation aussi. Aujourd'hui, est-ce que la police doit se réinventer ? Est-ce qu'il faut la rassurer ? Que doit dire Christophe Castaner aux policiers ? Parce qu'on ne l'entend plus, hein, Jean-Michel Fauvergue, Christophe Castaner.
Il faut soutenir la police et la gendarmerie tout le temps et en tout lieu. Parce qu'elle est toujours partout confrontée à tous les maux de la société, mais s'il faut la soutenir tout le temps et en tout lieu, il faut aussi affirmer, comme je l'ai fait moi pendant 40 ans en tant que chef de police, comme je le fais maintenant en tant qu'homme politique, qu'elle doit être exemplaire aussi. Et ça, c'est important. Ce double discours est important. On sait très bien maintenant, on l'a démontré, et moi j'ai connu ça pendant ma carrière, qu'on a des policiers, une poignée de policiers, très peu policiers gendarmes, qui sont racistes, xénophobes, violents. Moi j'ai connu des policiers qui tapaient leurs femmes, qui peuvent être voleurs. Qui sont voleurs, je l'ai connu aussi. J'ai fait des procédures là-dessus. Ils ont été expulsés. Mais ça n'est pas, loin s'en faut, systémique. Ça n'est pas la police qui est raciste. Ce sont les individus qui sont racistes. Et les individus sont racistes dans certaines organisations étatiques de ce type-là. Mais en face d'eux, ils ont aussi des individus qui sont racistes, y compris dans des manifestations racialistes ces derniers temps.
Le discours très clair de Jean-Michel Fauvergue ce matin, le discours besoin d'exemplarité dans la police et en même temps de rassurer les hommes de la police. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, député La République En Marche aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que François Rebsamen, le maire de Dijon, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15.
À suivre le portrait du grand musicien africain Ray Lema dans Periscope. Il sort un nouvel album. On sera avec Jean-Philippe Ballas sur Europe 1. Il est 7h50, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Belliard.
Et c'est l'heure de votre rendez-vous culture. Periscope, la culture à 360 degrés avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il revient avec un nouvel album. Ce matin, un pianiste au parcours tout simplement unique. Il s'appelle Ray Lema.
Ouais, je vous emmène en Afrique, au Congo, dans les années 50. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se rêve prêtre, mais qui va découvrir la musique. Les chants grégoriens d'abord, le classique, puis le jazz, le rock, la rumba. Bref, c'est le parcours totalement atypique de Ray Lema, artiste inclassable. 74 ans aujourd'hui, je l'ai rencontré à Paris avec un nouvel album live.
en hommage à un autre grand musicien du continent, Franco Luambo.
Bonjour Elema.
Bonjour Jean-Philippe.
C'était une soirée magique ce concert ?
Absolument magique, c'est vrai. L'ambiance était vraiment fantastique à Kinshasa. J'avais peur de rater Franco parce que chez nous, c'est un monument, ce monsieur. Pas seulement chez nous, mais c'est dans toute l'Afrique. Et ça marchait, tout le groupe était vraiment alors chaud. Et les gens, alors, c'était délirant, quoi.
Est-ce que tu as ce qu'il ça va ?
On le sait peu, mais votre tout premier concert enfant, vous jouez du Beethoven au piano.
Oui, c'était déjà un mauvais départ pour un Congolais, quoi. Moi, mon premier concert en public, c'était la sonate au clair de lune de Beethoven. J'étais déjà décalé, quoi. Vraiment, vraiment atypique. Déjà, je dirais, dans pratiquement toute l'Afrique, il y a très, très peu de pianos. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai une passion pour ce métier et je tombe facilement amoureux des bons musiciens. J'ai eu la chance de voyager partout, de collaborer avec plein de gens différents. Quand je croise un musicien qui est bon, j'ai tout de suite envie de savoir comment il fait ce qu'il fait. Ça fait que je suis tout le temps en train de tomber amoureux de différents types de musique, quoi.
Quelle est la sensation que vous avez aujourd'hui, Relema, quand vous vous asseyez à votre piano ?
Ah, le piano, c'est un instrument fabuleux, vous savez. L'Occident nous a fabriqué un truc extraordinaire, le piano. Parce que c'est tout un orchestre, le piano. Les vibrations vous traversent. Et la musique, c'est l'art d'organiser la vibration. Quand on apprend à s'asseoir au piano et à écouter, c'est une forme de méditation qui est extraordinaire. Et du coup, tu avances dans ta tête parce que tu pratiques l'amour, c'est tout.
Merci beaucoup, Relema.
Je vous en prie.
On entre KO, on sort OK. C'est le titre du nouvel album de Relema. Et c'était Périscope. Merci Jean-Philippe Ballas. Il est 7h53.
L'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Mathieu.
L'opinion de Nicolas Bétou, je me mets sur la bonne page, comme ça je ne dis pas de bêtises. Des heurts répétées à Dijon, des manifs qui tournent mal à Paris. Nicolas, est-ce que le climat post-confinement est en train de dégénérer ?
Oui, même si bien sûr il faut préciser que ces violences n'ont rien à voir entre elles. À Dijon, c'est d'abord une affaire de communauté, de bandes rivales, de vengeance et de contrôle d'un territoire. À l'évidence, le confinement a fait monter les tensions, ne serait-ce qu'en privant, là comme ailleurs, les dealers de leur petit commerce crapuleux. Et puis sur un autre front, le retour des manifs a fait ressortir les casseurs qui se sont abattus sur les cortèges, un peu comme la vérole sur le bas clergé. Ils ont retrouvé leur terrain d'affrontement favori avec la police. Ça avait commencé avec les manifs illégales du comité Traoré devant le palais de justice de Paris, puis à la République. Et ça a empiré hier, en marge des rassemblements de blouses blanches qui manifestaient pour la défense de l'hôpital.
Et à nouveau, la police se retrouve en première ligne dans des opérations de maintien de l'ordre.
Et oui, c'est un peu un cercle infernal. Depuis 2 ans, les gilets jaunes, les manifestations du 1er mai prises en main par les Black Blocs, les manifs à répétition lors de la réforme des retraites. C'est un cycle qui ne s'arrête pas, qui vient s'ajouter à la montée de la violence quotidienne et d'une délinquance ordinaire et qui semble en partie échapper aux forces de l'ordre. Le signal d'alarme avait été tiré par Gérard Collomb dans son mémorable discours d'adieu à son ministère. C'était début octobre 2018. Parlant des quartiers difficiles, l'ex-ministre de l'Intérieur avait averti que la loi du plus fort s'y impose, celle des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, une loi qui a pris la place de la République.
Et depuis ?
Eh bien, depuis, rien n'a changé. C'est le gros point faible de la politique d'Emmanuel Macron, à la fois sur le plan des idées, c'est un sujet dont il parle peu, et sur le plan des hommes, il y a un problème castaner. Le ministre était déjà connu pour ses déclarations intempestives et ses nombreux rétropédalages, mais le feuilleton de ces derniers jours laisse pantois sa notion de soupçon avéré de racisme dans la police. Puis l'interdiction des prises d'étranglement ont été si vivement dénoncées par ses troupes qu'il a été obligé piteusement de reculer. Sans pour autant, bien sûr, que ses relations avec la police n'en soient améliorées. Il y a un problème castaner et cela rejaillit sur le chef de l'État.
Est-ce que le président n'attend pas le remaniement, Nicolas, en juillet pour trancher cette question ?
C'est vraisemblable. Et si ça permet à son prochain gouvernement de rétablir la confiance avec les forces de l'ordre, alors ce sera une étape importante dans le rétablissement du lien avec elles. Mais ça ne suffira pas au chef de l'État pour se prévaloir d'un véritable bilan en la matière. Or, c'est pour une grande partie de son électorat un point sensible. Et c'est le seul créneau sur lequel l'extrême droite, mais plus largement la droite, réputée plus crédible sur les sujets régaliens, peut l'attaquer efficacement et elle ne s'en privera pas.
Merci Nicolas Bétou. L'opinion de Nicolas Bétou, tous les matins, votre édito, juste avant 8h sur Europe 1.
Europe 1. À tout de suite avec la météo sur Europe 1.